VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, il est 11h en temps universel. Bonjour à tous. Les Égyptiens votent aujourd'hui pour la troisième et dernière journée d'un scrutin présidentiel dont la participation représente l'unique enjeu. Le président Abdel Fattah al-Sissi étant assuré de l'emporter faute d'adversaires crédibles. Si une certaine affluence a été observée lundi à l'ouverture du scrutin, les électeurs ne se sont pas bousculés mardi et aujourd'hui dans certains bureaux de vote. Selon l'AFP, toutefois, aucun chiffre officiel de participation n'avait été publié en fin de matinée ce mercredi. Élu en 2014 avec 96,9% des voix, M. Sissi, âgé de 63 ans, a pour seul adversaire Moussa Mostafa Moussa, âgé de 65 ans, le chef du minuscule parti libéral Al-Gad, méconnu du grand public et partisan affiché du régime. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté hier une résolution renforçant le rôle de sa mission en RDC en vue des élections du 23 décembre prochain. La résolution souligne la nécessité de protéger les civils pour organiser le départ du président Joseph Kabila. Edine Sango fait le point.
Le texte adopté à l'unanimité, initié par la France, prolonge les mandats de la MONUSCO jusqu'en mars 2019. Il mandate les casques bleus à accompagner l'inscription des électeurs, les scrutins et la transition au sommet du pouvoir attendu le 12 janvier. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a été appelé à préparer des plans incluant toutes les options, y compris l'envoi des renforts venus d'autres missions de l'ONU. Monsieur Guterres a 3 mois pour faire le point sur ses plans de contingence devant les conseils de sécurité. L'ambassadeur congolais auprès de l'ONU a pour sa part appelé au départ de la MONUSCO. Pour lui, la mission des casques bleus devrait être avant tout de lutter contre les groupes armés pour protéger les civils dans la partie est du pays. Installée depuis près de 20 ans, la MONUSCO est la plus importante mission onusienne dans le monde avec le plus gros budget et personnel, soit plus de 16 000 militaires et des milliers de civils.
RDC, toujours, la justice a annoncé avoir ouvert une information judiciaire pour usurpation de nationalité contre l'opposant en exil Moïse Katumbi, candidat déclaré à la présidentielle du 23 décembre. Candidat déclaré donc à la présidentielle, M. Katumbi a lancé sa plateforme électorale le 12 mars à partir de l'Afrique du Sud pour la présidentielle qui va permettre d'organiser le départ du président Kabila à qui la Constitution interdit de briguer un nouveau mandat. Le dossier de ce journal nous conduit au Tchad. Le pays s'achemine vers un régime présidentiel. C'est la proposition faite par le Forum sur les réformes constitutionnelles qui s'est achevée mardi à N'Djamena et qui avait été boycottée par l'opposition et divers groupes de la société civile. Il est notamment prévu de créer plusieurs postes et de faire passer le mandat présidentiel de 5 à 6 ans, renouvelable une fois. C'est une autre tentative du président Idriss Déby Itno de s'éterniser au pouvoir, estime Mahamat Ahmad Alabo, le coordinateur du Front de l'opposition nouvelle pour l'alternance et le changement, le FONA, qu'on l'écoute.
Comme il fallait s'y attendre, Déby voulait tout simplement se pérenniser au pouvoir. Nous, on pensait que tout en se pérennisant au pouvoir, il pouvait quand même accepter de partager le pouvoir avec les autres. Mais là, il est devenu un empereur et il a concentré tout le pouvoir à sa personne. Bon, maintenant, il est seul à la barre comme un empereur et il va dicter sa loi et tout ce qu'il voudra au peuple. C'est bien.
Quelques exemples de cette concentration de pouvoir dont vous parlez?
Il a supprimé la primature. L'histoire de la primature chez nous au Tchad est arrivée avec les accords de Khartoum entre le président Malem et Cheikh Hadré. C'était en quelque sorte un partage du pouvoir entre une partie du pays avec une autre. Et donc ce partage du pouvoir est devenu institutionnel, si vous voulez. C'était une jurisprudence. Voyez-vous qu'on a mis aussi avec l'appui de la Banque mondiale le collège de contrôle et de surveillance des revenus pétroliers. Donc, il ne veut plus que quelqu'un lui pose des questions comment il amuse et abuse, n'est-ce pas, des ressources pétrolières. Les accords avec Glencore, c'est lui qui était au début et à la fin. Il a voulu après mettre ça sur le dos des autres, qui ne peut pas réagir. Mais en fait, c'est lui qui a mis le pays à genoux sur le plan financier. Il a complètement ruiné le pays.
Qu'en est-il du redécoupage territorial du Tchad qui avait suscité beaucoup de commentaires avant ce forum?
La commission technique, c'est lui, il a mis en place et qui a produit un rapport et distribué avec son aval quand il y a eu un gros tollé dans le pays et donc il était obligé de se raviser, mais pas tout à fait. Par exemple, avant, on a voulu amener la capitale du Kanem à Bol, celle du Moïse-Kévi à Pala, celle du VT à Amdjaras. Pour les autres, on a laissé les choses telles qu'elles sont, mais on a coupé d'abord le VT en trois provinces. Dans les Médis, le chef-lieu, la capitale, a été toujours historiquement la ville de Faya. Aujourd'hui, donc, Devi, il a voulu déplacer la capitale de l'Émilie à Amdjaras chez lui. Mais vous savez que l'histoire contemporaine récente est remplie de tels exercices qui ont eu lieu un peu partout par les petits dictateurs des tropiques africains et de leur disparition, tout est revenu à l'ancienne.
L'opposant tchadien Mahamat Amat Alabo joint N'Djamena par Timothée Donagmaï. Des militants d'un parti d'opposition dissous en février en Guinée équatoriale affirment avoir été torturés, pratique confirmée par des défenseurs des droits de l'homme, mais fermement démentie par le pouvoir Malabo. C'est à Guantanamo, surnom du commissariat central de Malabo, que plusieurs des 38 militants du parti d'opposition citoyen pour l'innovation disent avoir subi des mauvais traitements du 28 décembre au 3 janvier, selon des témoignages recueillis par l'AFP. Les faits ont eu lieu juste après que le régime eut annoncé avoir déjoué le 24 décembre une tentative de coup d'État dont les commanditaires étaient des Équato-Guinéens et les exécutants des étrangers, parmi lesquels des Français, selon Malabo. À Washington, il est 7h06.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
La Russie reste ouverte à une rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump, évoquée par les deux chefs d'État lors d'une conversation téléphonique la semaine dernière, a déclaré aujourd'hui le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Cela dépend de la partie américaine, mais la partie russe reste ouverte à un sommet Russie-USA, a-t-il déclaré aux journalistes, alors que Donald Trump a ordonné depuis l'expulsion de 60 diplomates russes des États-Unis en réaction à l'empoisonnement, de l'ex-espion russe Sergei Skripal en Grande-Bretagne. Kim Jong-un s'est prononcé pour la dénucléarisation de la péninsule coréenne et a confirmé la perspective d'un sommet avec le président américain lors d'une visite historique du dirigeant nord-coréen à son allié chinois. Après un jour et demi d'incertitude, l'agence de presse officielle Chine Nouvelle a confirmé tôt ce mercredi la visite à Pékin de Kim Jong-un, sa première visite à l'étranger, qui s'est entretenue avec le président chinois Xi Jinping. Cette visite s'est déroulée de dimanche à mercredi. Ici même aux États-Unis, deux policiers impliqués dans l'homicide en 2016 d'un vendeur ambulant africain-américain en Louisiane ne seront pas poursuivis. Le procureur général de l'État l'a fait savoir hier, Yacouba Ouedraogo, pour les détails.
Le non-lieu annoncé par le procureur général de Louisiane, Jeff Landry, a été immédiatement dénoncé par la famille d'Alton Sterling, la victime. Vous remettez un meurtrier dans la rue, a accusé la tante d'Alton, Sandra Sterling. Le rapport du procureur insiste sur le fait que M. Sterling, 37 ans, a résisté à son interpellation. Les deux agents avaient de bonnes raisons de croire que M. Sterling avait une arme et il résistait sans arrêt, a relevé M. Landry. Le père de cinq enfants, surnommé Sidi Man, vendait des CD sur le parking d'un centre commercial. Son apparence physique correspondant à la description d'une personne recherchée, deux policiers blancs ont décidé de l'interpeller. Il a été tué de plusieurs balles alors qu'il était maintenu au sol par les policiers, dont l'un a tiré. Les faits ont été enregistrés par une vidéo amateur qui a contribué à donner une ampleur nationale à l'affaire, avec des manifestations dans diverses villes américaines. Au lendemain de la mort d'Alton Sterling, un autre noir, Philando Castile, a été abattu dans sa voiture par un policier dans le Minnesota, sous les yeux de sa compagne et de la fillette de cette dernière, lors d'un contrôle routier.
Win Myint, proche allié de la dirigeante Aung San Suu Kyi, est devenu aujourd'hui le nouveau président de la Birmanie après un vote du Parlement en sa faveur. Âgé de 66 ans, cet ancien avocat est prisonnier politique, membre de la Ligue nationale pour la démocratie, le parti de la prix Nobel de la paix en place Tin Kiao, qui a démissionné après près de 2 années à ce poste. Prochain journal dans 50 minutes en compagnie de Henri Francis.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.